Chapitre 4. On ne pouvait pas parler ainsi du mariage de Savine avec la belle Corisandre sans que ce bruit arrivât aux oreilles de la personne qui, justement, avait le plus grand intérêt à l'apprendre. Raphaël, la maîtresse du prince, retenue à Paris par le rôle qu'elle jouait dans une pièce en vogue et aussi parce que son amant n'avait pas voulu l'emmener avec lui. Mais elle connaissait trop bien son prince pour admettre que ce mariage fût possible. Savine ne se marierait que quand il serait impotent, et ce serait pour avoir une garde-malade sûre dont il provoquerait la sollicitude, l'intérêt et les soins par toutes sortes de belles promesses que, naturellement, il ne tiendrait pas. Quant à penser qu'il était pris par l'amour et la passion, cette idée était pour elle si drôle et si invraisemblable qu'elle ne s'y arrêtait même pas. Savine amoureux, Savine passionné, cela la faisait rire aux éclats. Ce fut même par un de ces éclats de rire qu'elle accueillit la première fois cette nouvelle, quand une de ses bonnes amies vint la lui annoncer hypocritement, avec des larmes dans la voix, mais aussi avec la juste satisfaction dans le cœur, qu'éprouve une pauvre femme qui n'a pas eu en ce monde la chance à laquelle elle avait droit, avoir enfin abaissé une de celles qui lui ont volé sa part de bonheur. Cependant, à la longue et peu à peu, à force d'entendre et de lire le même mot sans cesse répété, « Le mariage du prince Savine avec mademoiselle de Barizel », elle finit par s'inquiéter. Un bruit aussi persistant ne pouvait pas se propager ainsi sans reposer sur quelque chose de sérieux. La prudence exigeait qu'elle vît clair en cette affaire. Ce n'était point un rôle facile à remplir que celui de maîtresse de son Excellence, le prince Vladimir Savine. Elle le savait mieux que personne et depuis longtemps elle l'eût abandonné sans certains avantages auxquels elle tenait assez fortement pour tout supporter. Et il y avait des femmes qui l'enviaient. Si elle savait de quel prix, de quel dégoût, de quelle fatigue, de quels efforts elle payait son luxe, ses diamants, ses équipages, ses toilettes, son hôtel des Champs-Élysées. Mais on ne voyait que la surface brillante de ce qui s'étalait insolemment en public. Elle seule connaissait le fond des choses, le bourbier dans lequel elle se débattait, comme elle seule connaissait la cravache qui, plus d'une fois, avait bleui sa peau. Après avoir bien réfléchi à la situation, Raphaël trouva que la seule personne qu'elle pouvait charger de cette enquête délicate était son père. Depuis qu'elle habitait son hôtel des Champs-Élysées, elle avait été obligée de se séparer de sa famille, Savine n'étant pas homme à supporter une communauté que le duc de Naurouz et Poupardin avait bien voulu tolérer. Il ne reconnaissait pas à sa maîtresse le devoir d'avoir un père et une mère, pas plus qu'il ne lui reconnaissait celui d'avoir d'autres amants. Elle devait être à lui, entièrement à sa disposition, sans distraction, du matin au soir et du soir au matin. S'il permettait qu'elle restât au théâtre, c'était parce qu'il était flatté dans sa vanité de l'entendre applaudir et de lire son nom en vedette sur les colonnes du boulevard ou dans les réclames des journaux. C'était une grâce qu'il faisait au public, comme il lui en avait fait une du même genre, en exposant ses trotteurs dans les concours hippiques. Qui aurait osé dire qu'il n'était pas libéral et qu'il n'usait pas noblement de sa fortune? Ne pouvant pas demeurer avec leur fille, M. et Mme Houssu avaient loué un logement dans la rue de l'Arcade, où M. Houssu avait continué son commerce de prêt en y joignant un bureau de renseignements intimes et de surveillance discrète. Une circulaire qu'il avait largement répandue expliquait ce qu'étaient ces renseignements intimes et ces surveillances discrètes, rien autre chose que l'espionnage au profit des jaloux. Mari, femme, maîtresse, qui voulaient savoir s'ils étaient trompés et comme ils l'étaient. Mais cela n'était point dit crûment, car M. Houssu, qui avait des formes et de la tenue, aimait le beau style aussi bien que les belles manières. Peut-être, dans un autre quartier, ce beau style qui mettait toutes choses en termes galants eût-il nuit à son industrie. Mais sa clientèle se composait, pour la meilleure part, de cuisinières qui fréquentaient le marché de la Madeleine, de femmes de chambre, de quelques cocottes dévorées du besoin d'apprendre ce que faisaient leurs amis aux heures où elles ne pouvaient pas les voir, et tout ce monde trouvait les circulaires de M. Houssu aussi claires que bien écrites. C'était encore plus précis que les oracles des tireuses de cartes et des chiromanciens auxquels ils avaient foi. D'ailleurs, quand on avait été une fois en relation avec M. Houssu, on retournait le voir volontiers. Sa rondeur militaire, son apparente bonhomie, la façon dont il jetait sa croix d'honneur au nez de ses clients en avançant l'épaule gauche qu'il faisait bomber, inspiraient la confiance. Maintenant que Raphaël était séparé de son père et de sa mère, elle ne pouvait plus, comme au temps où elle était la maîtresse du duc de Nauruse, entrer chez eux aussitôt qu'elle avait un instant de liberté et s'installer en caraco au coin du poêle pour voir sauter le foie ou mijoter le marc de café. Mais toutes les fois que cela lui était possible, elle se sauvait de son hôtel des Champs-Élysées pour accourir déjeuner dans le petit entresol de la rue de l'Arcade. C'était avec joie qu'elle échappait aux valets à la tenue correcte, aux sourires insolents et railleurs que son amant lui faisait choisir par son intendant et qu'elle venait tenir elle-même la queue de la poêle où cuisait le déjeuner paternel. C'était là seulement qu'entre son père et sa mère et quelques amis de ses jours d'enfance, elle redevenait elle-même, reprenant ses habitudes, ses plaisirs, ses gestes, son langage d'autrefois, qui ne ressemblait en rien, il faut le dire, à ceux de l'hôtel des Champs-Élysées et de sa position présente. Décidée à charger son père d'une surveillance intime auprès de Savine, elle vint un matin rue de l'Arcade à l'heure du déjeuner, arrivant comme à l'ordinaire, les bras pleins et les poches bourrées de provisions de toutes sortes, liquides et solides. Un des grands plaisirs de M. Houssu était, lorsque ses clients lui en laissaient le temps, de faire lui-même sa cuisine, ne trouvant bon que ce qu'il avait préparé de sa main. Lorsque Raphaël entra, il était en manche de chemise, occupé à couper du lard en petits morceaux. « Tu viens déjeuner avec nous ?» dit-il gaiement. « Eh bien, je vais te faire une omelette au lard dont tu me diras des nouvelles. Mais qu'est-ce que tu nous apportes de bon ?» Abandonnant son lard, il passa à l'inspection des provisions que Raphaël venait de poser sur sa table. « Un jambon de Reims, bonne affaire. Voilà qui change ma stratégie culinaire. C'est un renfort qui arrive à un général au moment de livrer bataille. Je vais mettre quelques tranches de jambon dans l'omelette, tu vas voir ça. » Il développa deux bouteilles. « Vermouth, vieux rhum, fameuse idée, tu es une bonne fille. Tu penses à tes parents, c'est bien, c'est très bien. Si nous prenions un vermouth avant déjeuner, ça nous ouvrirait l'appétit. » Sans attendre une réponse, il se mit à déboucher la bouteille de vermouth. « Non, dit Raphaël, j'aime mieux une absinthe. » « Il n'y en a plus. Nous avons fini le reste hier. »« Eh bien, on va aller en chercher. » Tirant une pièce d'argent de son porte-monnaie, elle la tendit à sa mère, qui essuyait la vaisselle mélancoliquement dans un coin. Madame Houssu se leva et, ayant pris une fiole en verre blanc, elle sortit pendant que Raphaël défaisait son chapeau et sa robe, une robe de Worth, les accrochait à un clou entre deux casseroles. « C'est ça, ma fille. Mets-toi à ton aise, » dit M. Houssu. « Il fait chaud. » Mais à ce moment, Madame Houssu rentra sans la fiole. « Et l'absinthe ?» demanda Raphaël. « J'ai envoyé la fille de la concierge. »« Quelle bêtise ! Elle va licher la bouteille !» s'écria Raphaël. « Allons, ma fille, » dit M. Houssu. « Ne porte pas des jugements aventureux sur cet enfant, à son âge !» Avec ça, qu'à son âge, je n'en faisais pas autant. Le feu était allumé, les œufs étaient battus. L'omelette fut vite cuite. Le temps de boire les trois verres d'absinthe et l'on put se mettre à table. Monsieur Houssu, au milieu, les manches de sa chemise retroussées jusqu'au coude, le col déboutonné. À sa droite, Madame Houssu, correctement habillée. À sa gauche, Raphaël, imitant le débraillé paternel, et ayant pour tout costume sa chemise et un jupon blanc. M. Houssu commença par servir sa fille avec un air triomphant. « Goûte-moi ça, » dit-il. « Est-ce moelleux ? Est-ce soufflé ? Tu as eu une fameuse idée de venir déjeuner avec nous. J'ai à te parler. Eh bien, ma fille, parle en mangeant, comme je t'écouterai. Tu as lu ce que les journaux disent du prince ? Qu'il allait épouser une jeune américaine. Il n'y a pas de fumée sans feu. En tout cas, l'affaire mérite d'être éclaircie et je compte sur toi pour ça. Tu vas partir pour Bade et m'organiser une surveillance intime, comme tu dis dans tes circulaires, autour du prince Savine et de Madame de Barizel, cette américaine. Moi, ton père ? Eh bien, c'est à ton père que tu fais une pareille proposition ? À qui veux-tu que je la fasse ? Vivement, violemment, M. Houssu se tourna vers elle en jetant son épaule gauche en avant par le geste qui lui était familier lorsqu'il voulait mettre sa décoration sous les yeux d'un client qu'il fallait éblouir. « Tu ne parlerais pas ainsi ? » s'écria-t-il en frappant sa chemise de sa large main velue. « Si le signe de l'honneur brillait sur cette poitrine. » « Puisqu'il n'y brille pas, écoute-moi et ne dis pas de bêtises. On raconte que Savine va se marier. S'il est quelqu'un que cela intéresse, c'est moi, n'est-ce pas ?» M. Houssu toussa sans répondre. « Dans ces conditions, continua Raphaël, il faut que je sache à quoi m'en tenir, et comme je ne peux pas aller à Bade voir par moi-même comment les choses se passent, je te demande de me remplacer. Moi, l'auteur de tes jours ?» Encore ? S'écria Raphaël impatienté. Tu m'agaces à la fin en nous le faisant à la paternité. En voilà-t-il pas, en vérité, un fameux père qui abandonne sa fille pendant 20 ans, c'est-à-dire quand elle avait besoin de lui, et qui ne s'occupe d'elle que quand elle commence à sortir de la misère, c'est-à-dire quand il voit qu'il peut avoir besoin d'elle et qu'elle est en état de l'obliger. Monsieur Houssu s'arrêta de manger. Et repoussant son assiette, il se croisa les bras avec dignité. « Si c'est pour le jambon de Reims que tu dis ça, s'écria-t-il, c'est bas. Nous aurions mangé notre omelette, ta mère et moi, tranquillement, amicalement, comme mari et femme. Nous n'avions pas besoin de tes cadeaux, tu peux les remporter. Si je mangeais maintenant une seule bouchée de ton jambon, elle m'étoufferait. » Du bout de sa fourchette, il piqua les morceaux de jambon. Puis, après les avoir poussés sur le bord de son assiette, il se mit à manger les œufs stoïquement, sous les yeux de sa femme, qui n'osait pas soutenir sa fille comme elle en avait envie, de peur de fâcher ce bel homme qu'elle s'imaginait avoir reconquis depuis qu'il l'avait épousée. Pendant quelques minutes, le silence ne fut troublé que par le bruit des couteaux et des fourchettes, car cette altercation qui venait de s'élever entre le père et la fille ne les empêchait ni l'un ni l'autre de manger. La première, Raphaël, reprit la parole. « Allons, père Houssu, dit-elle d'un ton conciliant. « Tout ça, c'est des bêtises. Ne laisse pas ton jambon refroidir, il ne vaudrait plus rien. Mange-le en m'écoutant, et tu vas voir que je n'ai jamais eu l'intention de te rien reprocher. » « Si c'est ainsi, puisque je te le dis !» Ramenant vivement les tranches de jambon dans son assiette, il en plia une en deux et la porta à sa bouche. « Je reprends maintenant mon affaire, » continua Raphaël. « En voyant que l'on persistait à parler du mariage de Savine avec cette Américaine, j'ai pensé que tu pourrais aller à Bade et que tu verrais ce qu'il y avait de vrai là-dedans. Personne ne peut faire cela mieux que toi. Est-ce que ça ne rentre pas dans ton métier ?» Que la scène se passe à Bade ou à Paris, c'est la même chose. Seulement, tu auras peut-être plus de mal là-bas, en pays étranger, que tu n'en aurais à Paris, où tu es chez toi. Ça, c'est sûr. Aussi, les prix de Bade ne peuvent-ils pas être ceux de Paris? Cela ne serait pas juste. Elle fit une pause et le regarda, mais sans affectation. Il parut ne pas remarquer ce regard, qui était plutôt une affirmation qu'une interrogation, et il continua de manger. « Ce que tu auras à faire, poursuivit Raphaël, je n'ai pas à te l'indiquer, c'est ton métier, et il me semble qu'il est plus facile d'observer un homme comme Savine, qui vit au grand jour, en représentation, comme si le monde était un théâtre sur lequel il doit se faire applaudir, que de suivre à la piste une femme qui se cache de son mari, ou une maîtresse qui se défie de ses amants. On a des moyens à soi, dit M. Houssu sentencieusement. Enfin, c'est ton affaire. Moi, ce qui me touche, c'est de savoir si véritablement Savine est amoureux de Mademoiselle de Barizel, ce qui, je te le dis à l'avance, m'étonnerait joliment, étant donné le personnage, ou bien s'il ne s'occupe pas seulement de cette jeune fille, qu'on dit magnifique, précisément parce qu'elle est magnifique et parce que d'autres s'occupent d'elle. Et puis, ce qui me touche aussi, mais pour le cas seulement où le prince te paraîtrait pris, c'est de savoir ce que sont ces deux femmes, la fille et la mère. Si ce sont vraiment des honnêtes femmes, ou bien si ce ne sont pas tout simplement des aventurières qui visent la grosse fortune de Savine. Sur ces deux points, Savine amoureux et Madame de Barizel honnête ou aventurière, il me faut des renseignements certains. N'épargne donc rien, je suis décidée à payer le prix. De nouveau, elle le regarda, en appuyant sur ses dernières paroles, de façon à les bien enfoncer. Pendant quelques minutes, M. Houssu resta silencieux, n'ouvrant la bouche que pour manger, ce qu'il faisait consciencieusement, avec un bruit de mâchoire, régulier comme le tic-tac d'un moulin. Si tu m'avais parlé ainsi tout d'abord, j'aurais compris. Tandis que j'ai été suffoqué, indigné, tu sais, moi, quand il s'agit de l'honneur, le sang ne fait qu'un tour et je m'emporte. Quand on a été soldat, vois-tu, on l'est toujours. Et la proposition que tu me faisais, ou plutôt que je m'imaginais que tu me faisais, n'était pas de celle qu'écoute froidement un soldat, un légionnaire. Il se frappa la poitrine qui résonna comme un coffre. Du moment qu'il s'agit seulement de savoir, continua M. Houssu, si le prince Savine ne poursuit pas un mariage, je suis ton homme, car tu as des droits à faire valoir. Un peu ! Et quel autre qu'un père peut mieux les défendre ? Puisque l'occasion se présente, je ne suis pas fâché de m'expliquer une bonne fois pour toutes sur ta liaison avec le prince Savine. Si j'ai toléré cette liaison, c'est d'abord parce qu'il faut laisser une certaine liberté à une artiste, et puis c'est parce que j'ai toujours cru à la parfaite innocence de cette liaison, ce qui est bien naturel entre une femme comme toi et un homme comme lui. Tout ce qu'il y a de plus naturel. Eh bien, ton père te tend la main. Et de fait, il la lui tendit, grande ouverte, avec un geste de théâtre. Il fera son devoir, compte sur lui. Il saura empêcher ce mariage avec cette Américaine. Il saura aider le tien, il saura même, s'il le faut, l'exiger. Contente-toi d'empêcher celui de Mademoiselle de Barizel s'il est vrai qu'ils doivent se faire. Là-dessus, je ne prendrai conseil que de ma conscience de père. Quand peux-tu partir ?
Tout de suite, si tu veux.
Mais il se reprit.
Demain, après-demain, dans quelques jours.
Pourquoi pas ce soir ?
Tu n'aurais pas dû me faire cette question, mais avec toi, il ne faut pas de fausse honte, et j'aime mieux te dire qu'avant de partir, il me faut réunir les fonds nécessaires, non seulement à mon voyage, mais encore à l'achat de certaines indiscrétions qu'il me faudra peut-être payer cher.
Ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. Le voyage et les indiscrétions, c'est moi qui les paie.
Oh non, pas de ça, pas d'argent entre nous.
Mais sans lui répondre, elle alla à sa robe et, ayant fouillé dans la poche, elle en tira un petit paquet de billets de banque qu'elle remit à M. Houssu. Celui-ci fit mine de refuser, mais à la fin il accepta.
« Alors, dit-il, je puis partir ce soir et dès demain me mettre en chasse. »«
Tu sais, dit Raphaël, pas de roulette, hein ?
Jouer l'argent de mon enfant ?
Ne te fâche pas et finis de déjeuner, que nous fassions un bésigue. »